Vous voulez que je vous dessine Lussas? Alors, ça dépend par où on arrive. Mais disons qu'à Lussas, il y a une rue. Voilà. Il y a une rue, et puis il y a une route par laquelle on peut arriver qui vient de la Ville-Dieu, une qui va vers Saint-Laurent. Ici, il y a un rond-point. Voilà. Mais en gros, ce village, alors ici, il y a l'ancien Tank, enfin, Tank s'est beaucoup déplacé. Ici, c'est la maison Barbe, la maison qui était l'ancienne épicerie. Il y a la boulangerie, presque en face. Et puis, ah oui, pardon, c'est toujours trop petit. Il y a l'école qui est là, le cinéma, l'ancien Tank qui est là-bas. Et puis, ici, il y avait la mairie. Il y a la mairie, mais il y avait l'école, l'université. Et puis, donc, la boulangerie, il y a chez Jojo, le bar, un autre bar. Et puis, quand on tourne vers la Ville-Dieu, alors, il y avait la maison... je dis tout au passé parce que c'est l'histoire. Il y a la maison du Doc, qui est la plus grande vidéothèque, en tout cas d'Europe, éventuellement du monde, de cinéma documentaire. Et puis, quand on continue... Alors, il y a un des lieux qui, moi, m'a le plus fasciné à Lussas, qui est un hangar qui a été construit par l'oncle et le père de celui qui a tout a créé le documentaire à Lussas. Et ce hangar s'appelle le Joncas, et c'est comme le grenier du village. C'est-à-dire qu'il y a dedans autant les cajots de pommes de Patrice Botéac que tout le matériel du festival, que des types qui jouent aux petites voitures, que... voilà. Et à droite, il y a un grand pré avec des peupliers. Et c'est là que sont projetés les films en plein air. Et encore un tout petit peu plus loin, c'est le chantier du bâtiment qui s'appelle aujourd'hui l'Imaginaire et qui est la première usine mondiale de documentaires, je dirais.
Et suivi la construction de l'Imaginaire.
Voilà.
Merci, Simon.
Ouais. Imaginaire, parce que à Lussas, c'est ce qu'on dit très vite au début, il y avait cette blague qui disait d'un côté, rive droite, c'est les agriculteurs, et rive gauche, c'est les imaginaires. Et les imaginaires, c'est les rêveurs.
Ce qu'on fait là-bas au pays, au Niger, comme tu as un objectif qui est sale, on utilise plus, comment on appelle ça, les bombes à air.
Ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, ici, on a des vieilles peaux de chamois. C'est comme du daim un peu, mais de chamois.
Ah d'accord.
Merci. Je sais pas si c'est vraiment un chamois, parce que vous avez pas ça chez vous?
Non.
Vous n'avez pas de chamois peut-être?
Il est 23h et on n'est pas armé contre les déceptions. L'être humain veut trouver un endroit où il est bien, penser « c'est là que je veux vivre », il veut choisir et y rester, il ne veut pas partir et il a des idées. Il aimerait qu'elles adviennent et il n'est pas armé contre les déceptions, donc il fera tout pour les éviter et ce sera un combat avec la réalité. À tout moment, il peut perdre, mais il pense qu'il peut gagner. Claire Simon a réalisé une série dans le village de Lussas en Ardèche, 1100 habitants. On cultive des fruits, on fait du vin naturel et des films. On défend le documentaire et la terre. Le premier épisode des 18 de la série commence avec l'idée de Jean-Marie Barbe de créer un nouveau bâtiment, de poser une nouvelle pierre, pour fabriquer Tank, une plateforme pour les films d'auteurs en sommeil. L'économie ne donne raison ni aux paysans ni aux faiseurs de cinéma. La pluie menace à la fois le festival et les récoltes. Patrice, qui est revenu au village pour travailler les vignes, avoue « On fait des trucs qu'on n'a jamais fait. On peut tout perdre. Ici, on invente. » Claire Simon avait filmé dans le bois de Vincennes des gens qui se créaient leur monde, avec des mots et avec des bouts de bois. Elle aime les bâtisseurs d'histoires, de cabanes, de refuges. À Lussas, on croit à un monde de la pensée. Tenk, ça veut dire « résume-moi ta pensée » en Wolof. Ici, c'est un village-monde, avec des films irakiens ou burkinabés, avec une bataille pour faire vivre son désir, puisque de toute façon, on n'est pas prêt pour la déception. Il y aura Claire Simon. Sa série Le Village vient d'être projetée pour la première fois au Cinéma du Réel à Paris. Elle est visible sur Tenk jusqu'au 19 avril. Il y a 2 saisons et 18 épisodes. Il y aura son ami, l'écrivain Guillaume Poix, qui vient de sortir aux éditions Verticales le roman Les Fils Conducteurs. À la musique, les Irlandais du groupe Altan. Leur dernier album s'appelle The Gap of Dreams. Ils seront le 13 avril à Colomiers et cet été le 11 juillet à Saint-Avé et le 17 juillet au Havre. C'est une vie d'artiste sur France Culture. Un samedi soir qui commence par un poème en wolof lu par Sangor.
Dans les langues négro-africaines, qui très souvent ont un accent tonique, ce qui distingue, je ne dirais pas à première vue, mais à première oreille, la poésie de la prose, c'est que la poésie est dite d'une voix monotone. Je vais vous en donner un exemple. Yagana, 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 degele, yagana, daoren, sogenyo, degele, oui, bisimla, diamandor, andidor, degele, laula tiat, laula rel, laula bet, degele, laula la, menudom, adem, degele. Kulukum ludigen sukejur degele wejanhanda uta chulen farunda degele farunda ocha menyal jogoma degele wegewelo rekelsa ndareli degele banyabon 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 degele balanga khamne ay banyabon degele ndunujib ndarejib tamajib degele besabarne katyabor baymbala degele tialanga khamne ay banyabon degele kanda dat patum da makadaj degele musagey tiakeskay makadaj degele mané assane fay tengegey makada dagle madikonar degele madikonar be mutikos te ci mat degele wexunar la ko dor badjoyes degele te fi madjar kou fadjar takaban.
On commence avec un peu de Wolof, Claire Simon, parce que comme on parle de territoire et qu'on a commencé à dessiner la rue principale et unique du petit village de Lussas en Ardèche, c'est vrai que tout de suite avec ce mot Tenk, et puis ce que vous avez décrit, c'est un endroit monde.
Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est un endroit monde par le désir de tous ceux qui font le village documentaire et ça a toujours été, Jean-Marie Barbe a créé le festival avec d'autres, etc. Puis très vite, il a créé l'université, le master. Mais dès que le master était à Lussas, le master français, il a tout de suite voulu créer un master à Saint-Louis du Sénégal. Enfin, il a trouvé les moyens de le faire. À l'époque, il était soutenu par une région Rhône-Alpes qui était favorable à l'éducation, on dirait, dans des pays qui avaient besoin d'aide. C'est plus le cas. Bon, mais il y a aussi les agriculteurs. On comprend très souvent à quel point ils sont liés au monde aussi. Et c'est ça qui est très surprenant à Lussas, à savoir que, par exemple, eh bien, la très grosse productivité qui est demandée à certains vignerons, elle est compensée par ceux qui font le choix du vin nature, par le fait qu'ils ont beaucoup moins de productivité, mais ils vendent à Tokyo, à Melbourne, au Canada, à New York, etc. Donc, ce village, il est très moderne dans le sens où il est mondialisé et très très local, bien sûr. C'est le pari. Et ce que on voit dans la deuxième saison, c'est que par exemple, la femme de Patrice Botteac est chilienne et que toute sa famille vient du Chili pour le mariage, etc. Et que donc il y a une confiance totale dans l'idée que ce village est le monde et qu'il a un rapport avec le monde. Oui.
Et si derrière chaque caméra, il y a une question à chaque fois qui fabrique une fiction, c'était quoi la question avec laquelle vous êtes partie à l'USAS ?
Est-ce que chercher un modèle économique pour faire ce qu'on veut, ça peut raconter une histoire ? C'est-à-dire, moi, quand j'ai découvert... Enfin, je connais très bien le festival depuis très longtemps... Quand j'ai su que Jean-Marie Barbe et d'autres avec lui étaient en train, comme on dit dans le premier épisode, ils veulent faire une télé à l'USAS, quoi, pour le documentaire, et que je voyais Jean-Marie venir à Paris, essayer de convaincre des gens, des partenaires, le Centre National du Cinéma, des financiers, etc. D'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour quelqu'un qui fait des choses pour beaucoup de monde. Et ils sont très rares dans le cinéma, hein, les gens qui font des choses pour les autres. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu vraiment envie de montrer ce que c'était que le monde, comment dire, à la fois financier et social du cinéma, par exemple documentaire. Il faut savoir que l'audiovisuel en France, c'est 3 fois l'automobile. Donc, on peut quand même se dire que ça touche pas mal de monde, que donc ça raconte quelque chose des rapports de travail, des rapports de financement, et le documentaire est une espèce de, comme un peu le vin nature, quoi, une volonté de faire quelque chose qui serait plus authentique, plus accessible à la fois à ceux qui regardent et à ceux qui font. Voilà, donc j'avais très envie, et comme je savais qu'il y avait j'ai très vite compris qu'il y avait ce projet qu'ils avaient financé de bâtiment, je me disais que d'aller du virtuel au béton, c'était hyper intéressant pour voir si ça fabriquait vraiment une histoire. Et puis, par exemple, dans les régions, en Ardèche autrefois, par exemple, il y avait des mûriers de verre à soie, et c'est devenu une région, par exemple, de textile, quoi. Et il y avait des usines. Et d'ailleurs, des usines qu'on appelle des moulinages et tout ça, voilà. Et donc, ils se sont soi-disant inspirés de ça pour l'architecture du bâtiment. Mais en tout cas, cette idée de qu'il y aurait une usine entre guillemets, entre moult guillemets, en tout cas un lieu de fabrication, de vente, de financement, de distribution du documentaire, je crois que c'est quand même assez unique au monde, quoi.
La plupart des films qu'on va vous montrer sont des films morts. C'est-à-dire que les 2/3 des films...
Non, mais... C'est sympa. Mais non, c'est beaucoup de noms de lignes
éditoriales. C'est des films qui ont été montrés en festival, qui sont accessoirement montrés une fois par une association, mais qui ne vivent pas. Ils sont sur les étagères. Donc l'idée, c'est si on leur permet de ressusciter...
Ah.
En fait, nous sommes des inventeurs, c'est-à-dire des gens qui découvrent quelque chose qui existe, mais qui était en sommeil, et le fait de le découvrir lui redonne la vie.
C'est un petit extrait du village Claire Simon avec la voix du fameux Jean-Marie Barbe,
ouais.
qui raconte à un autre moment que si on imaginait ça pour la littérature, ce serait dingue que la plupart des œuvres ne soient pas accessibles aux gens. Et donc c'est ça la première idée de Tunk. À quel moment vous vous êtes dit que ce serait une série, que justement l'histoire en train de se faire, vous alliez vous y coller?
Assez vite,
au processus.
En fait. Assez vite. Au bout de 2-3 mois. Parce qu'au début, j'ai commencé avec la petite cellule de Tunk. Et puis, il fallait... Déjà, le village documentaire, c'était grand. C'est-à-dire, le village documentaire, c'est l'ensemble des structures du documentaire de l'USAS. Mais moi, je voyais les gens de l'autre côté de la rue qui passaient avec les tracteurs et tout. Et ça m'intéressait beaucoup. Et surtout, dès le début, je savais que... à cause du Joncas et de ce hangar, que c'était l'occasion de montrer comment le passage de l'agriculture à la culture, c'est-à-dire de comment quelqu'un qui est Jean-Marie Barbe, sa mère avait l'épicerie, son père et son oncle étaient agriculteurs et ils vendaient des fruits. Et donc ils ont construit ce hangar pour mettre les camions, mettre les fruits, etc. Donc il y a Jean-Marie, il a compris que le cinéma documentaire était le lieu où on entendait les histoires, par exemple du village, mais des peuples, des voilà. Et donc ce passage de l'agriculture à la culture, j'ai l'impression que c'est dans ce village, ça s'est passé et ça se passe, et que c'est très intéressant parce que peut-être moi j'ai toujours été très intéressée par le rapport du cinéma à la vie. Je sais pas. Et donc très vite, je commençais à suivre les événements qui constituaient Tunk, et puis j'ai commencé à rencontrer peu à peu les agriculteurs. Et là, je me suis trouvée devant quand même quelque chose d'assez large qui allait prendre quand même de toute façon 3 ans. Et j'ai pris le risque des saisons parce que je trouvais ça vraiment très intéressant et de comprendre, peut-être de réunir de façon plus utopiste que la réalité les deux mondes dans la série pour que on voit à quel point cette recherche de on va faire quelque chose qu'on aime, qu'on pense qui est ce qu'il y a de mieux. Le cinéma documentaire, les cerises, le vin nature, le vin, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait pour arriver à pouvoir le faire,
Patrice? Et on va le faire ici.
Voilà.
On va pas partir de Lussas pour le faire.
Voilà. On va le faire ici. Patrice Botea, qui était ingénieur, est revenu et il travaille 15 heures par jour parce que une fois qu'il a fini tout son travail d'agriculteur, il faut qu'il fasse son travail de vendeur, qu'il vende ses fruits par Internet, etc. Mais c'est extrêmement intéressant et fort de voir comment chacun se bat pour arriver à faire ce dont il pense qu'il est ce qui est le plus beau.
On va essayer. C'est pas trop ce qu'on fait là. Là, on rentre dans un univers qu'on ne connaît pas là. C'est-à-dire que on fait des trucs qu'on n'a jamais fait. On ne sait pas si on peut le faire. Savoir si les raisins vont résister, pas résister. On n'a pas la moindre idée. Plus je réfléchis, plus je me dis que les paysans sont fous, quoi. C'est-à-dire que dans le monde économique, tu vois, dans lequel on vit, c'est un modèle qui colle pas, quoi. Je disais, aucun financier ou économiste ou mettrait un copec dans l'histoire de vouloir faire des fruits ou juste de la nourriture. Parce que pendant une année, tu travailles comme un âne, comme un fou. Tu mets tout des engrais, du fumier, enfin, du désherbant, de la taille. Tu fais tout le travail. Donc ça représente une certaine somme d'argent que tu mises, comme au casino, quoi. Et j'espère pouvoir prendre la récolte derrière pour essayer de gagner un peu. Et en fait, à tout moment, tu peux tout perdre, quoi.
C'était justement l'agriculture, le côté de l'agriculture qui invente autant que du côté du village documentaire à Lussas. Et petit à petit, ça se tisse encore plus au fil des épisodes. Et on se rend compte que c'est en effet des projets qui sont, s'ils sont évidemment très différents, très soumis à un modèle économique qui est dur à trouver. Et puis aussi, il y a un moment où il pleut. Tout à coup, on se rend compte que...
Un orage
assez violent. Et là, ça menace aussi les deux parties de la même façon, parce que ça menace le festival. Et de quelle façon ça vit ensemble?
Mais surtout, par exemple, quand l'orage est tombé, là, c'était... On voit Jean-Marie qui voit les grêlons tomber, qui sont très gros. Et on voit qu'il se souvient, c'est ce qu'il dit, de son enfance et de son père et de son oncle qui étaient absolument mais dévastés devant des cas comme ça. Du souvenir du cauchemar. Et c'est aussi ça qu'on comprend, c'est que lui, il a peut-être pas voulu se soumettre à ce cauchemar-là. Il en a d'autres avec les financiers et la recherche des abonnés, des financements, etc. Mais c'est pas l'orage.
Même c'est beau le fait d'être au milieu de cette nature et de se dire, comme je disais tout à l'heure, que c'est vrai que c'est des gens qui se construisent leur monde, leur cabane, et que ça peut, en un coup de vent, c'est très fragile. Mmh. C'est aussi,
c'est très fragile et ils ont tous extrêmement conscience de ça. Et je pense qu'aussi, par exemple, la construction du bâtiment, par exemple, comme pour l'oncle et le père de Jean-Marie d'avoir fait le hangar, etc., c'est tout le temps des actes pour dire que ça va durer. Parce que ce qui est très beau, moi j'ai grandi pas loin d'un village qui est très différent dans le Var, mais là par exemple quand je filmais la vogue qui est la fête du village, tout le monde parle de son âge. Et les vieux disent tous, moi j'ai, ça y est, ou je suis à la retraite, ou je vais y passer, etc. Parce que tout le monde passe et le village reste. Et tout le monde a grandi dans cette idée que le village allait toujours durer plus que chacun. Et je pense que chacun lutte à sa manière pour rester, pour constituer quelque chose du village qui va durer. Et c'est très difficile de durer, en fait. Le village est plus fort.
Comme la maison de Jean-Marie Barbe, par exemple. Voilà.
Ici, c'est une maison où il vivait. Il y avait deux familles. Celle de mon père et celle de mon oncle.
Ah bon ?
Ils travaillaient ensemble. Et là, autour de cette table, il y avait mon oncle et mon père, ma tante, ma mère, deux ouvriers agricoles, un ou deux chauffeurs, ma sœur, ma cousine Anne-Marie. Et mon cousin Michel, qui est arrivé un peu plus tard, lui. Tous à midi et parfois le soir. Mais c'était une famille d'épiciers. C'était pas les pauvres parmi les pauvres, quoi.
Et toi, t'as jamais douté sur le fait que tu ne reprendrais pas le commerce de tes parents ?
Non, puis ils n'avaient pas très envie que je le reprenne. Hein.
Ah bon ?
Ben c'est une famille où on se disait, enfin, ma mère leur rêvait qu'on soit fonctionnaire. Et côté de mes parents, de mon père, des barbes, on va dire, c'était plutôt fait des études. C'est les études ici.
Ah oui.
Ben oui, c'est la méritocratie républicaine, c'est quand même ça l'ambiance.
Claire Simon, la construction en épisode, le récit dévoile petit à petit des informations sur l'histoire de Jean-Marie Barbe, du village. Donc là, c'est pas dans les premiers épisodes, c'est un peu plus loin qu'il raconte ça, qu'on est dans la maison. Et puis un peu plus tard, il raconte aussi que la famille avait pris sur le terrain pour installer des gitans et s'était mis à dos le reste du village parce que c'était devenu un village de gitans. Donc petit à petit, c'est aussi l'histoire de... En effet, de ce village, comme vous le disiez, qui reste et qui est plus fort que tous. Et il y a une question à un moment donné d'un jeune, qu'est-ce qu'on va faire quand Jean-Marie Barbe ou des gens qui viennent de là, qui ont grandi dans cette maison, seront plus là? Comment ça se transmet? Comment ça se transforme?
Mais c'est le sujet de la deuxième saison.
Ah, celle que j'ai pas vue.
Non.
Alors il
non,
faut
non,
pas trop
non,
en
non,
dire.
Non, 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 mais c'est toute la question. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le rêve. Et qui entraîne. Ce qui est très beau, c'est que Jean-Marie, comme d'autres ailleurs et tout, ont créé un peuple d'amateurs de documentaires, d'étudiants, de réalisateurs. Il y a chaque été au festival, la moyenne d'âge, c'est 25 ans. Il y a énormément de jeunes, etc. Donc il y a un espoir comme ça du cinéma documentaire qui est très fort, quoi. Mais le maire a le même problème. C'est-à-dire, le maire, il est là, ça fait 30 ans qu'il est maire et qu'il a, que tout existe grâce à lui. Et par cette amitié.
Qui est un des personnages centraux de la série.
Ouais, qui est à cause de c'est le copain de classe de Jean-Marie de l'école primaire. Et en même temps, voilà. Ses filles ne sont pas agricultrices comme lui, parce que lui, il est maire et agriculteur. Donc, cette question de l'héritage et de la transmission, elle est totalement ouverte. Et c'est une question que, moi, j'aime beaucoup filmer la question du travail et de l'argent, surtout, enfin, comment de l'économie. Et je trouve que c'est une question qui est très violente du côté des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a peu d'entreprises qui perdurent. Les institutions perdurent. Et les hôpitaux, on l'espère, mais les universités, tout ça, les gens passent et ça continue. Ça continue de façon différente. Bon, les entreprises, c'est pas forcément le cas. On sait pas... quand Mark Zuckerberg ne sera plus là, si Facebook existera encore, voyez. Et comme on est dans une mutation très grande de délaisser les institutions pour aller vers le tout entreprise, le tout économique, c'est très vertigineux. Et je pense que c'est la lutte de, par exemple, de Jean-Marie Barbe, de Jean-Paul Roux, le maire, pour arriver à être à aller vers, au contraire, l'idée de l'institution et l'idée de quelque chose qui soit pérenne pour que ça puisse se transmettre, pour que d'autres puissent changer mais partir de quelque part.
Depuis 30 ans, il s'appelle Altan. Il faut entendre la terre d'où ils viennent, le comté du Donegal, en Irlande. Le dernier album s'appelle The Gap of Dreams. On entre donc dans l'endroit du désir, du rêve et des entreprises déraisonnables.
Nous sommes Altan, Mark Kelly, Maureen Niwini et Kieran Coran. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charan sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
We're going to play a few dance tunes from Donegal, and they're called Reels, and the first tune is called The Tullahan Lassies, The Cameronian and The Pigeon on the Gate, and this is from our latest CD, The Gap of Dreams. In the... Thank you.
moi, je sais que je vais dans un endroit où, de toute façon, il y a une histoire qui a lieu. Mais l'histoire, c'est mon histoire, malgré tout, parce que c'est celle que je vois. Vous voyez un type et une fille qui s'embrassent dans la rue. Vous remarquez rien, il y en a des centaines. Mais si ce type, c'est votre petite amie et qu'il embrasse une autre fille, à ce moment-là, c'est votre histoire. Vous pourrez la raconter parce que c'est votre histoire. Parce que la réalité en soi, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans la mesure où on l'interroge, et on l'interroge par rapport aux histoires qu'on se raconte soi-même. La réalité, c'est comme l'oracle de Delphes, quoi. On va demander la chose qu'on veut entendre, quoi, sur laquelle on veut savoir, quoi. La réalité en soi, ça n'existe pas.
La réalité, c'est comme l'oracle de Delphes. Est-ce que vous êtes d'accord avec vous en 1995, Claire Simon ?
Ouais.
Complètement.
Mais je pense que ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez, un physicien, quand il cherche quelque chose, il pose une question à la réalité. Et la réalité lui répond selon la question qu'il pose. Et on est tous rendus à ça. Voilà. Et effectivement, après, dans l'idée de l'oracle de Delphes, il y a la puissance de la réponse de la réalité, enfin de l'oracle. C'est, moi je le vis comme un oracle, oui. Je suis fascinée par ça, c'est vrai.
Vous êtes venue avec Guillaume Poix.
Oui.
Guillaume, comment votre rapport justement à la réalité avant l'écriture, ça a été façonné par votre rencontre et votre travail avec Claire Simon ?
Moi j'ai rencontré Claire au travail. Donc ça change beaucoup de choses, on ne s'est pas rencontrés par hasard, on s'est rencontrés au travail et Claire a accepté que je participe comme stagiaire au film qu'elle tournait, Les Bureaux de Dieu. Donc j'ai vu avant tout Claire d'abord cadrer ses propres images, et puis c'était, je me souviens, dans Les Bureaux de Dieu, c'était un dispositif très impressionnant physiquement qui t'engageait de manière extrêmement dure. Et ça m'a énormément frappé parce que j'avais pas du tout cette idée que le cinéma ça pouvait être aussi physique et que ton corps allait s'engager comme ça. Et je pense que ça a rencontré quelque chose que je ressens profondément, de comment notre corps s'engage dans la réalité et comment on ne peut pas faire sans. Et j'ai eu l'impression que je le voyais en acte avec la manière dont tu regardais, et que c'était pas juste des yeux derrière un petit écran, mais que c'était tout un corps qui, et tous les mouvements de ce corps t'engageaient et posaient les questions aux acteurs devant toi.
Et ensemble, je crois, assez vite, c'est poser la question, à partir d'un documentaire, d'écrire les paroles, de les transcrire pour le théâtre ou pour... pourquoi ?
Bah oui, parce que après, Guillaume est venu travailler avec moi sur un... Quand je travaillais sur le projet de la Gare du Nord, au départ, c'était trois formes. Il y avait un film de fiction, un film documentaire et une pièce de théâtre. Et Guillaume, quand je le connaissais, il travaillait beaucoup. Il a fait l'ENSAT, une école de théâtre. C'était hyper intéressant de travailler sur le projet d'une pièce de théâtre à partir de tout ce que j'avais ramassé avec d'autres... jeunes gens à la Gare du Nord, qu'on avait beaucoup enregistré et noté des phrases et des histoires et tout ça, qu'on a essayé de mettre en forme avec Guillaume. Donc on a beaucoup travaillé ensemble et on a fait un premier jet, voilà, et j'ai pas réussi à trouver comment le produire, mais c'était vachement intéressant.
Ouais, de mon point de vue, c'était vraiment décisif dans mon rapport à l'écriture parce que. D'abord, c'était des choses. Ta forme d'écriture est comme opposée à celle que je dois mobiliser quotidiennement. C'est-à-dire que moi, je collecte pas de matériaux, je le suscite autrement. Et ça m'a la radicalité de Claire sur la sacralisation de la parole de quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que d'avoir récolté le matériau de quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est que de le donner à entendre sans, je sais pas comment dire, sans trafic ? C'est une chose qui, moi, du point de vue de l'éthique de l'écriture et du point de vue de qu'est-ce que c'est que la fiction, parce que dans nos débats, c'est constamment ça. Qu'est-ce que c'est que la fiction? Quelle forme c'est? Et comment? C'était un travail décisif parce que le montage, la fiction, le rapport au réel, c'est des choses qui ont totalement, l'œil de Claire là-dessus a totalement influencé mon parcours d'écriture. Ça, c'est une évidence.
Et pour un roman, vous étiez certain d'entrer dans la fiction? et pas de rester dans le réel ou d'entrer dans un réel.
Bah, c'est comme si, voyant la radicalité de la démarche de Claire, je pouvais m'autoriser la démarche radicale inverse, à savoir ne surtout pas aller dans le lieu que j'allais décrire, ne surtout pas investir mon corps dans ce lieu, mais essayer de faire confiance à ce que la distance, le repli, et comme une forme radicale de fiction, non pas désengagée, mais en tout cas repliée, pouvait raconter de ce monde-là. Donc c'est une démarche comme en négatif de Claire, mais qui était en permanence tramée par la même exigence ou la même éthique de se dire quelle solution la littérature peut trouver pour ne pas falsifier le réel ou ne pas uniquement faire des projections fallacieuses, mais trouver par la forme et par les outils même de la langue cette question qu'on pose au réel. Et moi, je sais que dans l'écriture du roman que j'ai écrit, c'était vraiment ça. La question principale, c'était quels outils la langue me permet de déployer, les outils propres du langage, qui vont me permettre d'atteindre le réel, quand bien même ce n'est pas un réel que je saisis de première main.
Voler.
Ouais, voler.
Dans le roman dont vous parlez, Les fils conducteurs, on est dans un espace, dans un pays où, que vous ne connaissiez pas. Mais pourtant, vous avez créé un lieu, un terrain de jeu très réel.
Alors
très
le lieu, il existe en fait, c'est que ouais. j'ai triché, c'est-à-dire que le lieu, il existe, c'est la décharge d'Agbog Bloshi, qui est donc la plus grande décharge électronique de la planète. Et j'ai fait de ce lieu le corps même du texte, en postulant que cette espèce de lieu qui est un lieu-monde, un peu au même titre que je pense le village de Lussas est un lieu-monde, dans une toute autre civilisation et dans une autre situation géopolitique. Mais en tous les cas, cette décharge, c'est vraiment un lieu-monde pour moi. Et j'ai eu l'intuition que c'était Babel aussi, que c'était le lieu où tous les langages du monde entier échouaient et que c'était ça que la littérature devait raconter et saisir. Donc c'est à partir d'un lieu qui est absolument réel, qui est avéré, qui existe et qui est en grande partie tel que je le décris, c'était comment le réinventer par le langage et montrer que les outils du langage peuvent saisir quelque chose de ce lieu qui a à voir avec le mythe.
Et les images, ça vous accompagne pendant l'écriture ?
Ouais, beaucoup. Les films de Claire sont très très inspirants. Un des films de Claire qui m'a le plus marqué, c'est Le Bois. Vous en avez parlé tout à l'heure, Le Bois dont les rêves sont faits. Parce que ce qui me passionne chez Claire, c'est comment par l'image aussi, elle interroge le bien commun. Qu'est-ce qui fait que chacun va investir quelque chose de beau ou de bien, ou penser que ce qu'il est en train de faire, c'est non seulement bien pour lui, mais c'est aussi quelque chose qui le dépasse. Et ça, je trouve que c'est très présent dans le cinéma de Claire. Et en plus, ce film est d'une beauté esthétique incroyable. Je sais que je l'ai vu, je devais être en train d'écrire le roman. Et voilà, là je suis en train de travailler à autre chose, et j'ai vu la série de Claire, et je sais que c'est comme un rappel à l'ordre, à la radicalité de la démarche, quoi, et c'est toujours, ça fait du bien.
Vous saviez que c'était des rappels à l'ordre, bah, à la radicalité.
Je suis un peu, ouais. Pourtant, moi, ce que je trouve très très beau dans le roman de Guillaume, c'est la langue, et la langue que tu as réussi à nous faire lire, entendre, parce que c'est une langue qu'on entend quand on la lit, et qui est une langue qu'on pense complètement réelle, d'un montage de différentes langues, qui est ce qu'on appelle un pidgin. Et c'est vraiment très, très, très beau. Et c'est ce qui nous emporte tout du long. Parce qu'effectivement, on se dit, bah, pourquoi il va nous raconter ça, etc. Et c'est la langue de chaque personnage et comment cette langue fait un écho à cette décharge qui est vraiment très très fort, sachant que ce qui est raconté quand même très dur, quoi, dans toute l'histoire. Enfin, et peut-être que le fait de raconter par la littérature une décharge, c'est encore plus entêtant et terrifiant que de l'avoir. Il y avait un très beau court-métrage sur une grande décharge, j'ai oublié son nom, mais l'image est tout de suite nous gêne trop. Et là, les images, c'est nous qui les faisons, quoi, en lisant, et donc elles sont encore pires. Mais c'est nous qui les faisons. Il y a quelque chose de où le rapport est moins, comment on pourrait dire, pornographique. Il est construit, il se construit, il se déploie, mais il n'est jamais, il ne m'atteint pas par d'autres chemins que ceux de la littérature. C'est ça. Et donc de mon imaginaire, etc. C'est ça que j'ai trouvé vraiment prodigieux dans le livre. Ouais.
Et vous, Claire Simon, vous êtes toujours très proche de la parole et de la langue de chaque personne que vous filmez.
Oui.
Qu'est-ce que vous cherchez dans la langue de chacun ?
Ah, mais moi, je suis admirative devant la création, quoi, des autres. J'admire comment les mots, ouais, les mots que les gens utilisent, comment ça va si vite, comment c'est parfois cinglant de narration, de voilà.
Et c'est ça qui vous donne à chaque fois envie, souvent, parce que je crois que pour le bois, c'était la même envie de l'écrire, en fait, et de le redire et de l'entendre.
Oui, oui, oui. Mais parce que moi, je me demande toujours, c'est quoi une histoire? Comment on fait? Je ne sais pas du tout le faire. Et je vois que tout le monde sait, tout le monde l'a dans sa langue, etc. Et donc, j'essaye... Oui, oui, moi, je crois pas que je vole. J'essaye de montrer ça. Voilà.
On va écouter la voix de René Vautier.
Il y a un endroit en France où les gens passent pour anti-cinéastes. Parce qu'il y a eu des expériences un petit peu difficiles pour certains cinéastes. C'est l'île de Sein. L'île de Sein, c'est tout à fait là-bas, au bout de la Bretagne, en face de la Pointe du Raz. Et quand on va jusqu'à la Pointe du Raz, on distingue sur l'horizon, au bout, une petite barre, pas très longue, c'est l'île de Sein. Il y a des gens qui ont essayé de se servir des paysages de l'île de Sein, du tempérament prêté aux gens de l'île de Sein, pour écrire des scénarios dont l'action se passait à l'île de Sein. Il y a, par exemple, un film qui a été tourné là-bas, qui s'appelle « Dieu a besoin des hommes ». Bon, ce film, effectivement, le tournage a débuté dans l'île de Sein, mais au bout de 2 semaines de tournage, toute l'équipe a dû plier bagages devant l'hostilité des gens de l'île qui estimaient que c'était pas eux qu'on allait voir dans les images. On arrivait avec un truc, on leur faisait dire des choses, il n'y avait rien de commun avec leur vie réelle. Et ils ont dit au cinéaste, bon, ben maintenant il est temps que vous partiez. Et on a reconstitué à Joinville l'île de Sein pour que le réalisateur puisse terminer son film.
Vous n'avez pas eu à reconstituer Lussas dans un autre endroit?
Non, mais la place de celui qui raconte l'histoire est très difficile à négocier. Avec moi, j'ai filmé les gens de Lussas, mais ça n'était pas toujours facile. Et c'est pas parce que pour certains, pour le village documentaire, ils vivent du village documentaire, qu'ils étaient accueillants avec le fait que je les filme toujours. Mais voilà, en tout cas, les cinéastes de fiction mettent des rubalises et font venir des acteurs. Enfin, ils utilisent les lieux, ça m'arrive aussi, mais... quand on est un documentariste, quand on fait un film documentaire, j'aime pas trop le mot documentariste, mais on est tout le temps, enfin c'est un truc de masochiste, quoi. Enfin, on s'en prend plein la figure beaucoup, et puis peu à peu, il y a des gens qui au bout de 3 ans ne mettent plus les mains devant leur visage quand vous filmez. C'est un miracle, quoi, extraordinaire. Et tout d'un coup, ils ont compris que, alors bon, comme moi, je suis venue pendant 3 ans et demi, là, ils se disent, bon, quand même, la pauvre fille, il faut l'aider un peu, quoi.
Elle est persévérante.
Hyper dure, ouais, persévérante, voilà. Mais là, c'est toujours l'île de Sein, un village, c'est quand même toujours la question de l'étranger qui arrive au village. Alors, si en plus, il ou elle va raconter l'histoire, bon, c'est une expérience qui est difficile. Et aussi, curieusement, ça, c'est le monde du cinéma. Le monde du cinéma veut bien qu'on mette des tapis rouges, veut bien qu'on fasse des films promotionnels, mais quant à la réciprocité de l'image, c'est-à-dire j'ai fait un film sur l'examen d'entrée à la FEMIS. Tout ça, c'est pas toujours facile à négocier avec tout le monde, parce que voilà, les gens du cinéma, c'est un peu comme les nobles, ils veulent bien avoir des beaux habits, être dans la cour, mais ils ont pas toujours envie qu'on leur rappelle que leur vie, au même titre que les boulangers, que les ingénieurs, sont des vies intéressantes pour d'autres raisons.
D'ailleurs, dans la série Le Village, Claire Simon, il y a des moments, évidemment, de tension, parce que vous filmez des réunions, il y a des questions, est-ce qu'il faut un chef ou pas, est-ce qu'il y a une personne qui quitte l'équipe parce qu'ils sont pas d'accord et ils arrêtent pas de se répéter que c'est pas grave de pas être d'accord, mais en fait on voit bien que c'est très grave, enfin ça se révèle assez grave. Donc il y a tout ça aussi, il y a l'organisation humaine en fait, comment on s'organise et on n'est pas forcément toujours sous un très bon jour chacun.
Non, et puis c'est comment on travaille avec à quelque chose auquel on croit. Alors il y a cette idée de la foi, quoi, de croire. Tout le monde n'est pas d'accord sur comment arriver à faire cette chose. Et puis arrivent très vite les rapports de pouvoir, voilà, il y a quelqu'un qui dit moi j'en ai marre d'être celle qui toujours remplit les tableaux Excel, etc. Et donc ça, c'est des rapports de travail qui sont très intéressants à raconter et auxquels on n'aurait pas. Je ferais justement un film sur Peugeot ou sur Nissan, je n'aurais pas accès à ça. Et c'est aussi tout l'intérêt du microcosme d'arriver à raconter les rapports entre les gens, la question de est-ce qu'on devrait avoir un DRH ou pas, est-ce que tu préfères un CDD, toi tu préfères un CDD alors que je te propose un CDI, comment ça se fait, etc. Donc toute cette question des rapports sociaux et des conflits au travail, etc., à l'intérieur d'un monde où on ne fait que rêver, voilà, c'est ça que moi je trouve très intéressant. Mais de la même manière que c'est très fort de voir comment quelqu'un essaye de batailler pour obtenir des financements avec des gens qui sont censés trouver ce qu'il dit absolument formidable. C'est pas toujours facile, quoi.
L'USAS et cet endroit n'est pas à l'abri de... En effet, de ces conflits et aussi de l'actualité, de ce qui se passe. Enfin, on a dit que c'était un village monde, mais aussi en prise avec tout ce qui se passe en France. Et on va écouter ça, c'est le moment du festival.
Il y a eu un tag, alors je sais pas où, mais Daesh, image, attentat demain, ou un truc comme ça. Donc en fait, la préfecture nous avait dit on sera cool si tout se passe bien d'ici vendredi, et puis il y a eu ce tag, et donc du coup là ils sont...
Waouh, purée.
Et du coup, apparemment ça a été renforcé, je sais pas, moi j'ai vu Pascal dans tous ces états, et donc j'ai dit sur France Culture, ils ont parlé des images de Daesh.
Bon, une question quand même importante tout de suite, c'est quand même cette journée de vendredi. Vendredi, il y a une journée, si j'ai bien compris, autour
oui,
de
Daesh. Oui, c'est plus... Voilà. C'est pris, voilà. C'est semi...
Oui, mais bon, c'est, d'une. D'autre part, bien sûr, si les supérieurs ont vraiment lorgné du ça, c'est qu'ils ont su qu'il y avait un islamiste qui, comme par hasard, avait pris sa semaine de congé pour venir à l'USAS. Voilà. Et ils me redisent que c'était très cavalier dans cette temps d'état d'urgence de faire cette journée.
Ils l'ont pas interdite.
Mais d'un autre côté, l'interdire, ça veut dire qu'à un moment donné, tu fais de la publicité là-dessus et c'est à double tranchant.
Voilà, pas plus. Maintenant, ce qui est fait est fait. Ce que je regrette, c'est que ce genre de truc, il fallait, même si on est en état d'urgence, il fallait éviter, c'est la leçon à tirer, des débats, parce qu'à un moment donné, on peut penser, mais jusqu'à un certain point.
Entendez justement la voix du maire, Claire Simon, dont on a parlé tout à l'heure. Et là, donc, l'islamiste qui prend une semaine de congé pour venir à l'USAS, on pourrait pas... Si c'était une fiction, ça serait difficile à imaginer.
Oui, et pourtant, on était les seuls à le savoir. Et je dois dire que l'ingénieur du son et moi, nous avons tenu notre langue pendant tout le festival, un peu terrorisés à l'idée que ça allait débarquer. Mais il y avait une quantité de police à cause du fait de la venue de la ministre et tout ça. Il y avait des snipers, enfin bon, bref. Oui, c'est-à-dire que... mais c'est ça, un village, le monde arrive dedans, quoi. Et c'est très, très fort et très... Et je trouve que la position, là, du conseil municipal est assez admirable, quand même, quoi. C'est-à-dire que lui, évidemment, comme maire, c'est normal qu'il panique et qu'il soit tout d'un coup en train de se dire « Non, mais on va pas se retrouver avec un attentat, c'est horrible et tout. » Et tout le monde lui dit « Mais les RG, ils ont dit qu'on va pas l'interdire. » Et des gens dont on pourrait penser qu'ils seraient plutôt effrayés, etc. par voilà. Donc on voit, là, encore une fois, parce que c'est petit, quelque chose de la démocratie en marche, des discussions avec les différents... Voilà, qui, moi, me passionne complètement. Ouais. Ouais.
On va se retourner vers le groupe Altan en studio. Jean-Marie Barbe aimerait beaucoup cette musique.
Oui, j'en suis absolument certaine. Il a une passion pour la musique folk et voilà.
This is a children's song from County Donegal, where I'm from, and it's in the Gaelic language, which is my first language. It's a Celtic language. So it's called Dulamon na Binyabui.
Simon, comment on fait pour s'arrêter à 18 épisodes et résister à 19, 20, 21 ?
Non, non, mais 19, 20, on va les faire.
Ah, voilà, c'est ça là.
C'est, j'ai tourné, on ne les a pas encore montés, c'est pour ça que la deuxième partie était annoncée comme work in progress, parce qu'on n'a pas tout à fait fini. Voilà, il faut quand même dire que c'est... comme c'est pas un truc très répertorié, la série documentaire narrative, il n'y a que des séries qui sont des crime stories qui se font, et donc tout le monde dit « Oh non, non, mais ça n'existe pas ». Donc on a, c'est difficile, c'est Rebecca Ouzel et Madeleine Robert qui produisent et qui se battent beaucoup pour... on a eu l'aide, enfin on a la chance que de Ciné Plus, qui est vraiment un endroit où du cinéma peut exister dans la télévision, ce qui est devenu assez rare, et TV5 Monde aussi. Mais disons que voilà. Et,
encore c'est... un projet déraisonnable.
Ouais, en termes financiers, ouais.
On sera parti de tous les désirs déraisonnables, parce qu'on peut tout perdre, des désirs d'un village de défendre le documentaire et la terre. Claire Simon, la série Le Village, était en exclusivité au cinéma du réel. Elle est disponible sur la plateforme Tank jusqu'au 19 avril. Et puis les deux saisons seront diffusées à partir du 14 septembre sur Ciné+, et en 2020 sur TV5 Monde. Guillaume Poix, son roman s'appelle Les fils conducteurs, c'est aux éditions Verticales. Et Altan, le dernier album s'appelle The Gap of Dreams. Ils seront le 13 avril à Colomiers, le 11 juillet à Saint-Avé, le 17 juillet au Havre. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Anne-Laure Chanel pour la réalisation. Et à la technique ce soir, merci à Bruno Mourlan et Stéphane Touvenin. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.